L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, on retrouve notre bonne table, celle de l'association 4 quarts, avec qui nous réalisons chaque trimestre une émission autour des questions liées à l'alimentation, au bien manger, au bien boire. On se penche sur des produits, parfois sur des habitudes alimentaires, mais on se penche aussi sur le rapport à la table et à la cuisine que nous entretenons toutes et tous. Parfois, ce rapport est lointain. On mange parce qu'il le faut bien ou on commande vite fait quelque chose via une application de livraison de repas à domicile. Parfois, on fait la cuisine, on fait même de la cuisine tout un art, toute une cérémonie. On déguste avec volupté. Tous les goûts sont dans la nature. C'est vrai que chez 4 quarts, la tendance est plutôt à vous encourager à reprendre la main sur vos casseroles sans vous prendre la tête, sans dépenser des sommes folles. La cuisine est une fête, au moins un moment partagé, et notamment entre les générations. C'est le thème du jour qu'on aborde avec Françoise Doucet, Pascal Osier et Sophie Kouka. Bonjour mesdames.
Bonjour. Bonjour.
On dit que le rapport à la cuisine a beaucoup changé d'une génération à l'autre. Et qu'est-ce que vous, personnellement, chacune, vous avez observé en ce qui concerne vos familles, en tout cas? Sophie?
Alors moi, ce que j'ai pu observer, c'est que la transmission, qui se fait quand même principalement par l'exemple, il ne faut pas se le cacher, on met du temps avant de voir ce qu'on a transmis. C'est-à-dire qu'il y a une phase un peu compliquée qui est l'adolescence. Les enfants, en général, ne veulent pas faire comme les parents. Et donc, il faut qu'ils grandissent, qu'ils passent peut-être 20-25 ans pour commencer à se dire « Ah bah tiens, il y a des traditions de la famille, en particulier au niveau des repas, qui ont effectivement été transmises. »
Mais qu'est-ce que les grands-parents Kouka ont concrètement transmis aux... Non, peut-être pas aux petits-enfants, mais à vous, à Philippe et toi
qui, ouais, les grands-parents, ouais, qui sont aux ouais, petits-enfants.
Ouais, ou, non, qu'est-ce que vous avez, vous deux, vous avez eu votre génération, vous avez eu de vos parents?
Alors, on a eu quasiment un message opposé, dans notre famille en tout cas.
Moi, l'un et l'autre, ah oui, ça c'est intéressant aussi.
Moi, je viens d'une famille où même mon père cuisinait, et il cuisinait déjà quand il était tout petit. Ce qui, pour un petit garçon de la fin des années 40, n'était pas si courant que ça. Et ma mère est issue d'une longue tradition de cuisinier et de cuisinière à la maison. Moi, j'ai toujours vu mes parents cuisiner. Alors, plus maman le quotidien, plus mon père le côté un peu festif. Mais de toute façon, oui, j'ai toujours vu mon père très impliqué. Et dans la famille de mon mari, ma belle-mère a horreur de ça, de faire la cuisine. Elle le fait vraiment par raison. Son mari était commercial, était tout le temps au restaurant, le midi et le soir. Et donc, quand il était chez lui, ça n'avait pas beaucoup d'importance. En tout cas, je pense que je l'ai vu apprendre à faire le café à 60 ans. Donc, c'était vraiment de famille opposée. Et sur ce plan-là, je pense que mon mari m'a laissé aussi les commandes, parce que malgré tout, dans sa famille, c'est la femme qui... Il tenait ce rôle-là, le rôle nourricier. Et donc, il a toujours été, en soutien. Et je dois même dire je l'ai rarement vu terminer un repas sans dire « c'était vraiment excellent, voilà ce que l'histoire retiendra ». Et les enfants qui râlaient en disant « de toute façon, papa, c'est toujours très bon, quoi qu'il arrive
». Bon, tant mieux.
Ah oui, ça c'était...
Pascal, comment ça s'est passé?
Il n'y a pas eu vraiment de transmission, en fait, pour des questions de revenus, d'un point de vue économique.
Ah oui, pourquoi?
Ma mère était un peu seule, donc elle faisait une cuisine simple, bonne.
Ouais, mais ça peut se transmettre, une cuisine
obligation.
Simple.
Oui, justement, je l'ai vu faire et ça m'a... Enfin, j'ai des bons souvenirs de sa cuisine, mais je n'ai pas eu envie de reprendre le flambeau, en fait. J'ai fait une cuisine complètement différente quand je me suis mariée. Et puis, je l'ai fait au début par plaisir. Et puis ensuite, de plus en plus, un peu par obligation. Je me sentais, comment dirais-je, j'étais tenue de le faire, c'était comme un rôle à jouer. Et puis progressivement, en vieillissant, j'ai de moins en moins envie de faire la cuisine. Et c'est mon mari qui a pris le relais, voilà. Intéressant. Il n'y a pas eu vraiment de transmission, non.
Non, pas de plat fétiche qu'on transmet de mère en fille ou de père en fille.
Bah, j'ai
ou...
des bons souvenirs avec des plats dont j'aimais le goût et puis qui me plaisaient. Donc ceux-là, je les ai repris, mais sinon...
Non. Ouais. Françoise, des transmissions officielles
Alors, des transmissions officielles, c'est du, le temps passé. C'est vraiment le temps. J'ai des souvenirs avec mes, ma grand-mère paternelle qui était toujours dans la cuisine à cuisiner. Du temps passé du côté de mes grands-parents maternels, toujours dans la cuisine. Et je me souviens, une des rares choses dont je me souviens de mon grand-père, c'est d'aller faire les courses, d'aller au marché. À l'autre bout de la ville et on y allait à pied et on revenait chargé. Bon et là, j'en garde un souvenir. Oui, le temps passé. Ça, c'était au niveau avec mes grands-parents et avec mes parents. C'est le temps passé aussi. Mon père à la pêche, mais ma mère cuisinant les produits de la pêche. Le temps passé. Et le temps, bah, c'est de l'amour.
Mais aucune de vous ne parle de transmission de plats, enfin, c'est-à-dire avec une sorte de « je vais te montrer le truc » et puis...
Alors, tout était bon. Maman a rarement raté quelque chose et quand c'était raté, ben, ça nous donnait l'occasion de bien rire autour de la table. Il n'y a pas une, il y a des recettes et il y a des bons moments autour de la table. Bien sûr, elle m'a transmis ses origines ensoleillées, beaucoup de, autour de la cuisine méditerranéenne. Beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, beaucoup de légumes. Bon, alors quand je retourne chez maman et papa, c'est obligatoirement la salade de poivrons grillés parce que c'est vrai que je l'affectionne particulièrement. Mais tout est bon.
Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu de, chez moi plus de transmissions formelles, de certains plats ou produits fétiches que je n'arrive pas à reproduire parce que je n'ai pas eu le savoir-faire. C'est ça.
Ah,
c'est
alors,
ça que je veux dire. Est-ce que vous, dans vos familles, vous avez eu
la bûche de Noël,
le cours de cuisine, quoi ?
La bûche de Noël, la bûche de Noël, oui, le cours de cuisine, et il y a très très peu de temps, parce que sinon tout s'est transmis par l'exemple, tout s'est transmis de façon diffuse en regardant faire.
Ouais, c'est ça.
Et sauf pour la bûche de Noël, parce que celle-là, j'aimerais bien en faire. Maman l'a toujours faite. Moi, jamais. Je me mettais toujours les pieds sous la table. Et en fait, comme c'est un petit peu, ça demande des étapes, je ne la voyais pas faire toutes les étapes. Donc l'an dernier, je lui ai demandé de me reproduire toutes les étapes.
Oui, c'est ça. Parfois, on a besoin quand même d'avoir ça. Que juste regarder ne va pas suffire. Non, Sophie ?
Oui, alors moi, non, j'ai beaucoup appris en faisant avec ma mère. Enfin, la transmission, elle s'est surtout faite par ma mère. Mon père aimait bien être tranquille dans sa cuisine. Alors que maman, en fait, la cuisine, c'était aussi un moment où on pouvait lui parler. Elle nous a habitués à cuisiner toute petite. Hein. Je pense que j'ai dû faire les premiers 4 quarts. J'avais 4 ans à peine. Donc, elle nous faisait... on avait une autonomie. Elle faisait avec nous. Et je pense qu'elle elle nous a transmis comme sa mère lui a transmis. Et sans vraiment y réfléchir. Par la suite, surtout quand on est parti, ça nous arrivait de lui redemander la recette. Mais moi, elle nous avait offert, je devais avoir 10 ans, un petit carnet dans lequel je notais les choses que j'ai toujours. Ce carnet, il est un peu abîmé parce qu'il a quand même pas mal roulé sa bosse, ce brave carnet. Mais je m'en sers toujours parce que je sais exactement où les choses sont rangées.
Un carnet que fait Françoise pour ses enfants, je
crois. Voilà, et les enfants m'ont... Plusieurs fois, je leur en avais parlé. Je me dis, mais est-ce que vous voulez que je vous mette les recettes ? J'en ai tapé, maintenant, on n'est plus avec l'ordinateur. j'en ai tapé, bien que le coût des petits trucs notés, finalement, ça va vite et c'est simple et c'est efficace. Mais...
Oui, moi, je trouve que c'est plus pratique d'avoir un papier en cuisine.
Mais par contre, c'est vrai, comme j'ai quand même pas mal donné de recettes au fil de ma vie, mais ça et tout. J'aurais proposé plusieurs fois de leur mettre ça un peu en forme. Et en fait, c'est maintenant, en ce moment-là, donc ils ont tous passé 23 ans, enfin les grands ont passé 30 ans. Et c'est maintenant, en fait, qu'ils sont en demande de cette forme plus organisée. Et il y a longtemps, j'avais fait un des petits livrets pour le Noël de mes neveux, quand ils étaient partis faire leurs études. Ils sont un tout petit peu plus vieux que mes enfants à moi, bon, que j'ai donné aussi aux miens, d'ailleurs, et qui était sur les pâtes. Alors, c'était très axé.
Ah oui, c'est précis.
Ah bah, c'était précis, ouais. Mais bon, ça s'adressait mais les pâtes, à un public important. Bien oui, particulier. Ça.
Surtout pour les étudiants.
Et en fait, ils m'ont dit, il n'y a pas longtemps, qu'il avait retrouvé le petit livret. Donc, en fait, sur le coup, ils ne s'en sont pas servis. Mais aujourd'hui, ils s'en servent, ils trouvent ça bien. Et donc, voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi un moment, quand on quitte le foyer, où on, comme disait Pascal, j'ai pas cuisiné de la même façon. J'ai voulu avoir ma cuisine à moi, ma façon de faire. Et après, bah oui, on retrouve. Alors que, non, donc j'ai pas vraiment eu de transmission. On s'est dit, attends, cette recette-là, il faut que tu l'apprennes et tout. Non, on a tout appris à l'exemple. Je pense qu'il y a peut-être la farce de la dinde de Noël. Ça, c'était vraiment une spécialité de mon papa. Mais papa, il suivait jamais de recettes. Alors lui, c'était un créatif. Oui,
moi, je comprends, moi, je suis comme ça.
Voilà. Et donc, la farce, c'était jamais deux fois pareil. Et non seulement, un jour, quand même, je dis, il faut que tu me montres comment faire. Et en plus de ça, petit à petit, on a fini par se donner des... Tiens, j'ai essayé ça, tiens, ça, c'est pas mal, etc. Donc ça, ça a été un petit...
Françoise, le carnet.
Alors, le carnet, oui, les enfants sont demandeurs. Donc, voilà, je le conçois tranquillement. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai demandé à maman la même chose. Donc, maman écrit toutes ses recettes de cuisine sur un superbe carnet. Et je sais que dans quelques... Le plus tard possible, hein, mais je sais que j'y ai accès déjà régulièrement, mais que...
Ce sera un héritage particulièrement précieux. Alors, qu'est-ce que vous avez parlé ? Vous avez toutes parlé, je crois, de faire différemment. Qu'est-ce que vous faites différemment ? Alors, Pascal, qu'est-ce que vous faites vraiment différemment de vos mères, pères, en cuisine ?
Les plats en eux-mêmes, parce qu'avant, c'était très simple. C'était un rôti de porc avec des choux de Bruxelles ou un petit poulet avec des frites. Bah, maintenant, je cherche des choses un petit peu plus sophistiquées.
Avec de la sauce en plus, c'est quoi le...
Non, j'aime plutôt la cuisine végétarienne, donc déjà ça change beaucoup les choses. Et puis sinon, j'innove beaucoup aussi. En fait, je suis une recette à ma façon. En fait, je prends les ingrédients, puis après je fais un peu comme je veux. Donc ça donne des résultats un petit peu curieux quelquefois, mais bon.
C'est plus une question de produits différents.
De produits, parce que sinon, non, je crois que le contexte n'est pas du tout le même. Je crois vraiment que ça, il y a eu une rupture totale avec l'enfance, donc je ne peux pas faire de comparaison. Il n'y a pas vraiment de transmission. Simplement, si ce que ma mère aimait faire, j'en parle, mais je ne le fais pas forcément. C'est des souvenirs, c'est plutôt lié aux souvenirs en fait, d'enfance, mais pas dans la continuité ni dans la transmission de la cuisine.
Mm-hmm. Françoise, qu'est-ce qui a changé ? Il y a des choses qui ont changé, peut-être pas tant que ça en fait.
Moi, au contraire, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle alimentation, quand on parle cuisine, quand on dit ce qu'on cuisine, quand on dit ce qu'on mange, on dit qui on est. Donc, c'est aussi une façon de se révéler. Et j'avoue qu'il y a quand même un sacré fil conducteur avec familial autour de la cuisine. Et je peux pas dire, au contraire, qu'il y ait des choses qui aient beaucoup changé.
Même en termes de produits, justement.
En termes de produits, les fromages. Les fromages, parce que j'ai une culture... Enfin, j'ai toujours excessivement bien mangé à la maison. En revanche, le fromage, familialement, les parents ne savaient pas le choisir. Donc, j'ai appris à le faire, j'ai appris à le déguster, j'ai appris à le reconnaître... beaucoup plus que familial, enfin que la génération d'au-dessus et encore la génération d'au-dessus.
Oui, donc on peut très bien perdre des informations d'une génération à l'autre, mais on peut aussi en gagner quand même. Enfin, s'améliorer.
Ouais, hein, dans un sens ou dans l'autre. Alors ce que j'ai gardé, c'est pas forcément en lien. Enfin, c'est en lien avec les recettes, mais c'est aussi en lien avec les manières, les bonnes manières, par rapport au savoir-être. Ne mets pas les coudes sur la table. Tiens, trois doigts droite.
Mais on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on ne doit pas mettre
attends
les coudes sur la table.
Attends que tout le monde soit servi avant de commencer à manger.
Non, ça d'accord, on peut comprendre.
Hein. Ferme la bouche quand tu manges quand tu parles
oui.
aussi.
Oui, on peut comprendre.
Ne parle pas la bouche pleine, voilà. De tout un peu, et j'en ai encore une autre. Parce que c'est venu comme ça. Partage équitablement. En gros, quand je devais certainement prendre la plus,
parler. On peut aussi couper à la demande. Hein. C'est à mon avis pour le gaspillage alimentaire, c'est ce qu'il y a de mieux.
Oui, bon, on en était. Oui, alors après c'est l'étape d'après. Oui, effectivement. Mm. Donc ça, sur les façons d'être, le savoir-être, c'est vrai qu'on peut lier l'alimentation aussi aux postures, aux gestes et à l'éducation. Mm-hmm. Savoir manger, c'est une. Enfin, chacun transmet qui il est au travers de l'alimentation.
Sophie, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui se fait complètement différemment chez les Koukas ?
Je vais quand même d'abord rebondir sur ce que... Puis ça nous pourrait ramener aux Koukas, parce que c'est un point qui est très important pour mon mari, justement sur cette transmission aussi du savoir-être à table, et en particulier de manger, entre guillemets, hein, proprement. Je trouve que c'est vraiment une chose qui ne s'est pas transmise à la... Désolée, à la génération de nos enfants. Et moi, je vois vraiment beaucoup de jeunes qui
mangent avec les doigts, c'est quoi ?
C'est assez difficile d'ailleurs à décrire, parce qu'effectivement, mon mari est assez à cheval là-dessus. Donc par moments, je le trouve un peu maniaque, mais c'est vrai que quelqu'un qui mange vraiment mal, en fait, pour moi, si je suis convive à la même table, c'est gênant. Mais je ne parle pas de petites erreurs. Une façon très particulière, par exemple, de tenir sa fourchette et d'envoyer en fait l'alimentation dans sa bouche.
Les pelletés, oui.
En se mettant très près de l'assiette, en ayant la bouche qui mâche. Enfin, moi, je vois des enfants... Alors que les parents mangent normalement. Enfin, c'est pas que les parents savent pas, mais ils laissent faire. Et alors moi, je plains un peu l'enfant, parce que je me dis, si les gens sont comme moi, même si j'essaye de pas être négative.
Oui. Si un jour il est reçu dans le grand monde,
c'est même
ça
pas
va
un
pas
reçu
passer,
dans
quoi.
Le grand monde. C'est que typiquement, moi, c'est quelqu'un. J'ai un collègue comme ça. Je vais pas deux fois manger au restaurant avec lui.
Hein. Oui, c'est ça. Oui. Il faut bien reconnaître que manger proprement, c'est technique. Moi, je ne sais pas, par exemple, manger des langoustines proprement. Moi, je les mange avec les doigts. Je l'assume totalement. Personne ne m'a jamais appris. Ah, mais je connais quelqu'un qui sait les découper au couvert. Hein, mais combien d'heures de formation il faut.
Peut-être, mais bon, typiquement. Manger des langoustines avec ses doigts, je trouve ça
normal.
Des frites avec ses doigts, c'est même pas manger avec ses doigts, c'est pire que ça. Quand j'étais enfant, j'ai jamais rencontré un autre enfant qui mange comme un certain nombre de jeunes mangent aujourd'hui. Et ça, j'ai du mal à expliquer pourquoi.
C'est le fast-food, sans doute.
Ça s'est pas transmis. Enfin, c'est vraiment et je l'ai dans mon entourage proche, hein, c'est pas juste des je comprends pas comment les parents ne réagissent pas, et c'est compliqué d'ailleurs, parce que quand vous êtes là, vous pouvez pas dire tiens, je vais commencer à lui faire des remarques, enfin on sait jamais trop comment se positionner,
parce que aussi les enfants n'obéissent pas toujours. Il y a peut-être ça,
je sais pas. Et je vois dans des fratries, par exemple. Pourquoi dans des fratries, on a qui mangent correctement et des qui mangent vraiment de façon repoussante ?
Question de personnalité. Oui, Françoise ?
Pour rebondir sur la question, qu'est-ce qui n'a pas été transmis ? Qu'est-ce qui se transmet ?
Qu'est-ce qui a changé, en tout cas ?
Qui a changé ? Je vois, par rapport aux listes de mariage, il y a quelques années... on demandait beaucoup de la belle vaisselle, des beaux couverts, etc. Et dans les personnes autour de moi, il y a moins cette demande. On est plus sur du mobilier, il y a moins cette demande.
Intéressant.
Moi, j'interviens aussi dans les EHPAD. Et je suis surprise de voir... Je pointe pas le doigt, mais malgré tout, la relation à l'alimentation passe aussi par la belle vaisselle. Hein. Et je vois de temps en temps, relativement souvent, de la vaisselle qui n'est pas forcément adéquate.
Qui n'est pas adaptée.
Qui est vieillotte, qui peut être ébréché, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne, dans la mesure où tous les jours, je mange avec mon service de mariage, avec les beaux verres.
S'il n'est pas cassé.
Avec les belles assiettes, avec les beaux couverts. Et pour moi, c'est une fête, et je mets des bougies sur la table. Et, Et je dirais que c'est systématique. Et ça me... Je trouve ça un peu gênant de manger de bonnes choses dans de la vaisselle qui n'est pas jolie. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup rire mon entourage et même ma famille parce que, alors du coup, c'est vrai que je tire un peu vers... je tire un petit peu la famille, les amis à sortir la belle vaisselle.
Pascal, la belle vaisselle, c'est important.
Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est comme si on versait du champagne dans un gobelet en plastique. C'est pareil, il y a des choses qui ne se font pas. Et je trouve qu'un bon dîner dans une belle vaisselle, même un dîner simple, ça augmente tout de suite le plaisir d'être à table. On est bien ensemble et voilà. La table, c'est très important, oui, je crois aussi.
On n'est pas obligé de se marier dans les recycleries. Il y a des tas et des tas de vaisselle en bon état. Hein,
tout à fait.
À acheter, c'est vrai,
oui,
tout à fait. Après, il y a sans doute des accessoires qui ne servent plus trop, hein, des saussiers ou des choses comme ça. Mais...
C'est parce que la tradition voulait que dans le temps, on ne s'en serve pas. Le fait de s'en servir tous les jours, c'est presque une non-transmission de ce qui
s'est
passé
avant. Oui, c'est vrai, ça se
transmettait. C'est pour ça qu'on les trouve encore, c'est parce qu'effectivement,
ça reste dans les armoires.
Là, je suis d'accord que c'est dommage d'avoir de la belle vaisselle et de pas l'utiliser. Surtout qu'aujourd'hui, sincèrement, on peut aussi avoir de la belle vaisselle sans que ce soit des choses trop luxueuses ou fragiles. Enfin,
oui. Bah, de toute façon, s'en servir, c'est risquer de la casser, mais bon, c'est la vie. Hein.
En tout cas, c'est mieux qu'une barquette plastique.
Et comment est-ce que la nourriture, sinon, peut créer du lien entre les générations sans qu'il y ait forcément de cuisine ensemble? Ça, c'est Françoise, je sens qu'elle a quelque chose à dire là-dessus.
Ah bah alors là, moi, je suis au taquet avec la création d'une confrérie, la confrérie du haricot blanc. Et alors, c'est très... Alors, vous
c'est
riez,
un scoop sur Radio Évasion, la confrérie du haricot blanc. Nous ne rions pas du tout.
Non, n'empêche que sur les ondes, hier, on parlait d'une autre confrérie également créée. Il y en a plein, celle du chou endémique de Normandie. Eh bien, moi, je parlerai du haricot blanc endémique d'Irvillac, qui date du 19e siècle. Et... Ça passe. Là, du coup, c'est une transmission par les graines. Les graines, bien sûr, qui vont être récoltées pour être cuisinées. Et ma voisine et amie de 93 ans, qui est partie la semaine dernière, m'avait dit il y a quelques mois de cela, mais Françoise, j'aimerais te faire un cadeau. Alors évidemment, je l'ai envoyé paître une fois, deux fois. Et j'ai compris l'importance de sa demande. Et je lui ai dit, mais tu sais, Mité, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses me donner quelques graines que tes parents plantaient, enfin que tu plantes depuis plus de 80 ans, que tes parents plantaient et que tes grands-parents sur la commune d'Irvillac plantaient également. Comme ça, en plantant, je me souviendrai de toi tous les ans. Quand je mangerai, je me souviendrai de toi. Et puis aussi, cette variété est une variété reproductible, transmissible. Et c'est important, au même titre que tu as nourri ta famille et tes amis, que moi, je puisse continuer à en parler. Et le faire aujourd'hui à la radio, c'est quelque chose qui est important.
Donc, c'est un haricot soisson. Il s'appelle soisson, même si... haricot soisson.
C'est du gros haricot blanc. C'est du... et voilà. Et autour de la création de cette confrérie, c'est du lien, c'est de la transmission intergénérationnelle pour rassembler, pour partager et pour continuer à transmettre. Et je dirais toujours. Et donc, je trouve que l'exemple des confréries, finalement, et notamment du don, du legs de mon amie Marie-Thérèse est formidable pour ça.
Donc là, c'est la transmission par le jardinage, puisque c'est des graines. Est-ce qu'il y a eu des transmissions de recettes de haricots blancs quand même?
Oui, alors oui, la recette qui allait avec. Mais enfin, après, on peut faire 150 000 recettes. Mais ce haricot est généreux et hyper productif et hyper digeste. C'est vraiment, les vieilles variétés sont vraiment à conserver pour nourrir le monde.
Je suis obligée d'apporter un bémol parce qu'il est quand même sensible aux maladies comme haricot. Il n'est pas forcément à toute épreuve des maladies dans le jardin. Moi, je n'ai jamais réussi à le mener à terme. Il a toujours eu... mais bon, voilà. Après, mon jardin n'est peut-être pas adapté. Mon jardin n'est pas à Irvillac.
Alors on essaye effectivement. Là, aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes dont un qui a réussi à récupérer dans son jardin 14 kilos de haricots blancs. Donc
bravo.
Voilà. Donc c'est vrai que peut-être que la terre, là, il faut aller plus loin, effectivement. il faut aller plus loin, un peu voir le terrain, voir le drainage aussi du sol, etc. Voir s'il y a des limaces ou pas. Enfin bon, il faut aller un petit peu peut-être creuser un petit peu.
Il faut se transmettre des techniques de jardinage en plus des recettes de cuisine.
Bah ouais, mais ouais. C'est de la transmission.
C'est de la transmission.
C'est de la transmission.
Allez, il nous reste une minute. Alors, Pascal.
Non, moi, juste la transmission, ça s'est fait de parents à enfants à petits-enfants. Et c'est la recette des spaghettis carbonara.
Est-ce que c'est la vraie recette de spaghettis carbonara?
Normalement, oui, c'est la vraie
sans
recette.
Sans crème, hein, on est d'accord.
Ouais, la vraie recette qui a été transmise aux enfants et maintenant que réclament les petits-enfants.
Et qui venait d'Italie.
Donc là, non, pas du
même
tout.
Pas.
Mais ça a été fait depuis l'enfance. Ils ont gardé un tel souvenir qu'ils en ont parlé aux petits-enfants. Et voilà, maintenant, c'est admis.
Françoise? Le dernier mot.
Ah, le dernier mot. Ah, c'est hyper compliqué. Alors, on a lu le même livre, Sophie et moi. C'est un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Odette, tout le monde. Et c'est un recueil de 8 récits. Il y en a un.
On n'a pas le temps. Même pas. Ah, et ben, en 10 secondes.
En une minute, en 10 secondes, l'objectif, en fait, on se trouve dans un camp de prisonnières, dans un goulag. On est en Russie en 1955 et le seul objectif des prisonnières, c'est qu'à la sortie, elles puissent porter un message à leurs enfants. Et en fait, elles réussissent en 30 secondes, elles réussissent à faire sortir, alors j'épure, à faire sortir en fait un petit livret. Ce livret, donc, on le retrouve 50 ans plus tard, porté par leur fille qui se retrouve à l'ambassade de France. Et ce livret, c'est un recueil de recettes de cuisine.
Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, mesdames. On pourra réécouter cette émission et les autres émissions de 4 quarts qui reviendra bien sûr dans un trimestre. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.